C'est l'heure de la chronique Coton-Tige. Vous avez tous vos petites habitudes d'oreilles et nous, on a décidé de les dénicher. Il faut bien de temps en temps titiller un peu vos oreilles, alors on va vous chercher des noises. Aujourd'hui, on va chercher des noises aux mélodies qu'on connaît par cœur et dont on ne se souvient pourtant jamais. Ces tubes qui nous poursuivent et nous pourchassent partout, au réveil, en soirée, sous la douche, sur le poêle de la brosse à dents, dans la rue. Nos aïeux d'avant Boris Vian les appelaient saucissons. Ils sautent d'une tête à l'autre, pire qu'une épidémie de poux, afin de nous tourmenter, car tormentone veut dire tube en italien. Chimère, sans queue ni tête, trop égoïste pour ne jamais parler que d'elle-même, mais auquel on finit toujours par s'identifier. Les noises tombent d'amour pour l'essai phénoménal de Peter Xendi, Tube, la philosophie dans le jukebox, aux éditions de Minuit. Elles ne sont pas seules dans leur admiration. Au Nouveau Théâtre de Montreuil, la pièce The Haunting Melody met en scène les spectres de nos oreilles, embrassant une grande quantité de références philosophiques et musicales sur un plateau déguisé en studio d'enregistrement. L'écriture très musicale de Xendi a été le point de départ.
Et c'est pour ça que moi, tu t'es intéressé à Peter Xendi. Effectivement, quand il décrit un tube, en fait, il est dans le tube. Et c'est ça qui est fascinant. Parole, il a la chanson dans la tête quand il l'écrit, c'est évident. Et c'est pour ça que c'est un super matériau théâtral. On a envie d'en faire quelque chose quand on le lit.
Discussion croisée entre Isabelle, spectatrice, et Mathieu Bauer, metteur en scène de la pièce et directeur du Nouveau Théâtre de Montreuil, sur fond de quelques-uns de ces tubes que Peter Xendi analyse avec brio.
The Haunting Melody.
La mélodie fantôme, c'est Théodore Reck qui en parle, c'est un psychanalyste, et à un moment donné, il fait référence à, effectivement, à ses vers d'oreille, et qui peut aussi traduire par ses mélodies fantômes ou ses mélodies hantées, travailler à partir de ces petits airs comme ça qui viennent nous titiller l'esprit, qui apparaissent, qui disparaissent. Ça peut virer à l'obsession et on peut s'interroger effectivement sur qu'est-ce qu'elle nous raconte sur nous-mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire écouter le monde, écouter la musique, partager une écoute? Est-ce qu'il y a un point de vue politique, historique? Est-ce qu'il y a un point de vue uniquement intime, collectif? Plus tous les écrits de Peter Xendi autour de nos écoutes, de l'écoute en général. Et il appelle ça, c'est assez joli d'ailleurs, j'aime bien ce terme, une archéologie de nos écoutes. Donc c'était aussi une façon de s'inscrire dans cette archéologie-là. Et donc évidemment, à partir du moment où on fouille, on tombe forcément sur des spectres, des fantômes qui viennent nous hanter, puisque le monde est rempli de spectres et de fantômes, surtout mélodiques.
J'en ai, oui. Mais de toute façon, moi, j'aime beaucoup chanter, donc j'ai toujours un truc dans la tête. J'ai plutôt très souvent une mélodie dans la tête que pas, enfin, tout le temps, même n'importe quoi, mais tout le temps, ouais.
Autre théoricien des tubes, Théodore Adorno. Défaitiste, le philosophe analyse l'invasion des tubes sur les fréquences radio comme une victoire mercantile et abrutissante du capitalisme. Qui écoute ces tubes ? Citation de Typologie de l'auditeur dans le spectacle.
C'est Adorno qui a écrit ça, oui. Donc il a une sorte de classification sur le rapport qu'on peut avoir en tant qu'auditeur à la musique. Et effectivement, il les décline. Il y a l'auditeur de ressentiment, l'expert, le consommateur, etc., etc. Enfin voilà, il y en a 7. Donc c'est une petite référence, un clin d'œil. Adorno était assez dur avec la variété, la musique populaire. Enfin, ce qui est devenu la musique populaire, puisque... À un moment donné, la musique populaire est aussi une source d'inspiration pour Bartok, Stravinsky, Schoenberg, etc., etc. Et puis, il y a eu un tournant au début du XXe siècle avec la reproduction, avec l'enregistrement, avec la radio, avec, et peut-être, effectivement, parfois, peut-être un appauvrissement, grosso modo, de l'écriture musicale, mais en même temps, on a gagné en quelque chose qui est, ces objets qu'on peut pas totalement cerner, qui nous appartiennent, enfin, je veux dire, qui deviennent, une vraie culture populaire, c'est-à-dire une mémoire collective. Et ça, c'est quelque chose que la musique classique, de temps en temps, n'a pas ou n'a plus.
Il y a effectivement ce qui est très bien expliqué au début du spectacle, ce qu'on entend et ce qu'on écoute. Et il y a une vraie différence entre j'entends quelque chose par hasard, parce que c'est là, parce que c'est présent, et ce que je veux écouter. Et après, on n'entend que ce qu'on veut vraiment entendre. Donc, est-ce que ça me fait réfléchir là-dessus? Oui, bien sûr. Oui. Est-ce que ça modifie ma perception de l'écoute? Concrètement, il y a vraiment des moments où j'ai choisi ce que je voulais écouter ce soir. Parce que ça me touchait plus, ou ça me parlait plus que d'autres choses.
Le nombre de fois où j'ai embarqué des gens, je dis « Tu vas voir, ça c'est formidable, c'est magnifique !» Et puis les gens sont un peu pantois en face, et pourquoi, etc., etc. Et puis il y a un rapport à la musique, moi je trouve, dans le contemplatif aujourd'hui, qui est peut-être une chose qui me plaît beaucoup. Je trouve que on parle beaucoup, on entend beaucoup de choses, mais on ferait bien parfois de se taire un peu. Être écouté.
Moi j'aime beaucoup, beaucoup la musique et les chansons dans les spectacles. J'aime beaucoup ce vecteur pour raconter des histoires. Je trouve qu'une chanson, 3 minutes, on peut raconter presque plus de choses que dans une pièce parfois.
À chaque fois, c'est marrant, ne serait-ce que de parler du projet, systématiquement les gens font « Ah oui, c'est formidable !» Comme si on avait oublié quand même qu'on avait 2 oreilles, 2 pavillons, qui fonctionnaient à peu près 24 heures sur 24.
The Haunting Melody, pièce de théâtre sûre et avec les sons qui nous hantent, superpose les couches sonores et les modes d'écoute, en s'aidant de ses personnages comme prisme de réfraction. On vous recommande de chercher des noises à Peter Gzendi et son essai « Tube, la philosophie dans le jukebox ». Vous pourrez y découvrir la face cachée de quelques-uns de vos tubes préférés. Le tube de Boris Vian, Parole, 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 où se sont affrontés Mina et Alberto Lupo, puis Dalida et Alain Delon. Je suis venue te dire que je m'en vais, ou encore Mélodie interdite du facétieux Gainsbourg, en passant par Abba, Claude François, et le traitement cinématographique de Hitchcock et Alain René. Nous aussi, on est venu vous dire qu'on revient bientôt en podcast sur le site de Radio Campus Paris. On espère qu'on vous aura donné envie de chantonner. Bisous.